Bonjour Jean-Gilbert. Bonjour aux amis, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Bonjour à la belle-mère. Bonjour à mon père, à ma mère. Je ne sais pas si Marlène et Leandro sont devant l'écran. Si oui, on les salue aussi. Sinon, on les salue aussi. Ah. Bonjour à la sœur Sylvia. How are you, Sylvia? God bless. Greetings to Pastor David also. Hier, j'étais content. J'avais de la belle, belle visite de la région de Gatineau. Yéyé était content. Ça a été l'occasion de prendre de belles photos avec des petits bouts de chou qui me tiennent bien à cœur. Donc je ne sais pas si Adassa, Joshua et puis Nathan nous regardent aujourd'hui ou nous regarderont tout à l'heure, mais je leur fais de gros bisous. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, on dirait que ça va être une journée nuageuse. La pluie, c'était hier après-midi, hier soir plutôt, durant la nuit. Marie-Marthe, bonjour. Es-tu encore chez Evans? Si oui, on le salue, lui, sa conjointe et l'enfant. Bonjour Julie. Salutations à votre époux. Vous avez encore 7 minutes pour vous saluer et puis aller vous chercher un café. Je l'ai juste à côté de moi. Hermana Marta Lucia, que Dios la bendiga. A usted, a la Kis también. Merci Denise. Bonjour à Fritzner, bien-aimé, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Merci Julie. Gérard, Denise, bonjour. Alors, je crois comprendre que vous avez de l'électricité. On nous dit que dans les Laurentides, il y a environ 10 000 personnes, ou 10 000 abonnés plutôt, qui n'ont pas d'électricité actuellement. Suite aux pluies, grand vent, voire même une tornade qui est arrivée à Wentworth, si je ne m'abuse. Marie-Huguette, bonjour. Lalande, bonjour. J'ai vu la recette pour la glace sans sorbetière, très intéressant. Je me promets d'essayer sous peu. Bonjour Jacinta. Bonjour Pascal. Alors, on est le lundi 25 juillet 2022, début de la semaine. Et pour nous, on continue donc notre étude dans 2 Timothée au chapitre 4. Nouvelle thématique pour cette semaine, veillez à bien s'équiper. Encore 5 minutes et nous débuterons. Bien content, Gérard et Denise, que l'électricité soit là chez vous. Il me semble que Wentworth a fait un peu beaucoup de choses là, qui se passent depuis le début de l'été, là, dans ce coin-là, la grêle, tornade. Il me semble qu'il y a le camp Peniel qui est là-bas aussi. Je ne sais pas s'ils ont été infectés par la tornade. Rachel, bonjour. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi, Marie. La sœur Ocilia, la sœur Chantal, la sœur Mona. Merci Marie-Huguette. Merci la belle-mère. Oui, j'ai vu la lande, que c'était pas toi. C'est toi qui l'as posté. Donc j'ai vu le vidéo que tu as posté pour la glace. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Comme j'ai dit, je vais certainement en faire. Pas que je mange beaucoup de glace, hein, j'en mange très peu. Et comme c'est sucré, ça peut être compliqué pour moi et Daphné. Je veux essayer. Je vais en essayer une au café, en fait. Je vais en faire une au café. Merci Marie-Marthe. Nathalie, bonjour. Salutations à toi et la petite famille. As-tu des rendez-vous cette semaine, Nathalie, au niveau médical? Louise, bonjour. Bonjour à Michel, bien entendu. Ici, en tout cas sur Montréal, ça a été de la pluie essentiellement. Il n'y a pas eu de grêlons. Pas mal de vent à un moment donné, mais ça allait. Il y a quelques semaines, dans la région de mes grands-parents, et donc de mes les grands-parents sont tous partis, donc de mes oncles et mes tantes, il y avait de la grêle qui est tombée. C'était gros comme, je dirais, des balles de baseball. Là-bas, on l'a comparé avec avec des boules de pétanque. Donc, à peu près comme pour les Nord-Américains, à peu près comme des balles de baseball qui tombaient. Donc, énormément de dégâts. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Bonjour Gilles, bonjour Joanne. Encore une ou deux minutes. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez déjà ouvrir dans 2 Timothée au chapitre 4. On reprend les enseignements non pas de hier, mais d'hier, deux dimanches, où on parlait de veiller à bien s'équiper. Que le Seigneur t'accompagne, Nathalie. Pastor David, good morning. So happy to see you with us today. God bless you. So you have sun in Gatineau today? We're on a cloudy day or a cloudy morning here in Montreal. I think that rain has stopped. I don't think they're forecasting rain today, but it's great outside. Babette Andreas, que Dieu vous bénisse. Ok, comme la sœur Dora n'est pas connectée sur Facebook, je n'étais pas au courant que c'était son anniversaire. Je ne sais pas si elle nous écoute même puisqu'elle n'est pas connectée sur Facebook. Donc on lui souhaite malgré tout un joyeux anniversaire. Merci Babette, merci Louise. Alors prions et on débute. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, cette occasion que tu nous donnes, encore une fois de plonger nos regards dans ta parole et d'être assurément béni, fortifié, encouragé et alimenté et abreuvé par elle. Je te demande Seigneur que celle-ci puisse trouver une terre adéquatement préparée fertile, une terre dans laquelle elle peut s'implanter profondément, une terre dans laquelle elle peut s'enraciner, croître et porter un fruit qui te sera agréable, tant de ce côté-ci du ciel que dans l'éternité. Alors merci d'être avec nous, merci de bénir chacune des personnes qui se joignent à nous aujourd'hui, et en toute chose que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Alors cette semaine, nouvelle thématique, toujours par contre le même passage qu'on a pris l'habitude d'étudier depuis maintenant, je pense, 4 semaines, si je ne m'abuse, c'est tout le mois de juillet qu'on passe là-dessus. Donc on quitte un peu les personnages, on a étudié donc à la base Démas versus Paul, Démas étant celui qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent, tel que le passage nous le dit, tel qu'on le verra tout à l'heure dans la lecture. Puis on a abandonné, on est passé aussi par-dessus les personnes, ou on est passé plutôt à travers les personnes qui entouraient Paul durant son emprisonnement à Rome. Et on a vu la semaine dernière les personnes que Paul a mandatées, que Paul avait positionné pour servir dans les différentes églises qu'il avait eu l'occasion de fonder à travers ses voyages missionnaires. Aujourd'hui, on va voir des choses desquelles Paul s'équipe ou desquelles Paul recommande que l'on puisse s'équiper ou recommande à Timothée ou à ceux qui le liraient de s'équiper. Donc, c'est des choses qu'on va voir cette semaine. Avec la thématique, donc, veillez à bien s'équiper. Je lis pour vous, donc, à partir du verset 6 jusqu'au verset 22 dans 2 Timothée au chapitre 4. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur le lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Millet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors cette semaine, on va s'arrêter sur trois versets particuliers, ou trois versets en particulier plutôt, le verset 13, le verset 17 et le verset 22. Et aujourd'hui, on va essentiellement étudier le verset 13. Je relis tout de même ces trois versets. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé. » Ça, c'est le verset 13, je m'excuse. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, sur tous les parchemins. » Verset 17. « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Et verset 22, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Mais je répète le verset 13 qui nous sert de réflexion aujourd'hui. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Je répète, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alors, comme j'ai dit cette semaine, on étudie donc les choses desquelles Paul veut s'entourer. Non plus des personnes, mais des objets ou des choses qu'il veut s'assurer d'avoir autour de lui. Et il commence avec un article tout à fait banal aux yeux de plusieurs. « Apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. » Pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Carpus, c'est donc un chrétien de Troas, bien entendu, qui a hébergé pendant un certain temps Paul alors qu'il faisait un de ses voyages et chez lequel il a laissé un manteau notamment et des livres et des parchemins. Et on va faire la distinction tout à l'heure entre les livres et les parchemins. Et pour ceux qui prennent des notes, qui n'étaient pas là dans les derniers enseignements, Carpus veut dire celui qui porte du fruit. Le manteau. Le manteau, c'est le terme en grec phailonès. Phailonès, donc P-H-A-I-L-O-N-E-S. Ça, c'est pour ceux qui prennent des notes. Phailonès, manteau. P-H-A-I-L-O-N-E-S. On ne parle pas ici d'un manteau d'hiver. On ne parle pas ici d'un manteau qui protège du froid. On parle d'un manteau tout particulier qui était une espèce de cape de voyage. Un peu comme ce que les jeunes filles portaient il y a encore quelques années. On le voit moins souvent aujourd'hui, qu'on appelait un poncho. Je crois qu'au Mexique, on avait l'habitude d'emporter. Donc, c'était une espèce de toile, une espèce de drap rectangulaire avec une ouverture en plein centre qui permettait d'y passer la tête. Et alors, on avait un morceau de tissu qui descendait devant sur le buste et un morceau de tissu qui descendait sur le dos. Et on avait deux longues ouvertures, donc, sur le côté. Lorsqu'on parlait de phailonès, on parlait de ce manteau-là dans une utilisation toute particulière ou dans une utilité toute particulière. Le phailonès n'était pas un manteau qu'on utilisait parce qu'on avait froid. Le phailonès n'était pas un manteau qu'on utilisait non plus pour de grandes occasions. On peut se rappeler un peu certains extraits bibliques où on va parler de manteau. On va penser au manteau que Jacob aura fait pour Joseph, un manteau multicolore qu'on va par la suite tacher de sang pour faire croire à Jacob que son fils bien-aimé a été tué par des bêtes sauvages. On pourrait passer dans le Nouveau Testament, notamment, à ce manteau que va recouvrir le Père envers son fils dans la parabole du fils prodigue. En fait, ici, le manteau qu'on utilise donc n'est ni un manteau pour se réchauffer, ni un manteau pour aller dans une soirée de gala, si on veut utiliser le terme. Le terme phailonès est plutôt un manteau qu'on utilise tout d'abord dans les bateaux et de surcroît à cela dans les temps de pluie et de tempête. Phailonès, si on cherchait un synonyme contemporain, on parlerait d'un imperméable. Donc un manteau qui protège de la pluie, qui protège de la tempête. Lorsque quelqu'un, dans le contexte biblique de l'époque, dans le contexte néo-testamentaire, entendait ou lisait dans la langue grecque phailonès, il savait donc que c'est un manteau attitré à des journées de tempête. Ça veut donc dire que Paul, qui est en prison, qui passe par des moments difficiles, s'attend à des tempêtes. Je ne sais pas comment il est enfermé, comment il est gardé en captivité. Assurément, ce manteau-là prouve que soit le donjon ou le cachot dans lequel il est très humide, qu'il y a des infiltrations d'eau ou autre, ou qu'il est amené à se promener dans la cour de la prison dans une période de pluie. Il demande même à Timothée de venir avant l'hiver. Est-ce que c'est parce qu'il sait que l'hiver venant, il aura besoin du manteau? Probablement. Est-ce que le manteau, il en a déjà besoin, il en est en manque? Probablement aussi. Vous savez que si effectivement Paul est à Rome à ce moment-là, donc à Rome, il n'y a pas de neige. L'hiver se manifeste malgré tout, mais à travers de la pluie. Donc ce manteau-là devient important. Ce qui est intéressant, c'est que Paul, lorsqu'il demande ce manteau-là, c'est en prévision de la tempête. Et pour nous, ça devrait déjà être un enseignement en soi. Un enseignement qui vient contredire certains évangiles ou une certaine version de l'évangile qu'on présenterait un peu, je dirais, à l'eau de rose, en disant, mais maintenant que tu es chrétien, tout doit bien aller. Maintenant que tu es chrétien, tu n'es plus malade. Maintenant que tu es chrétien, tu deviens riche. Maintenant que tu es chrétien, tu embellis. Maintenant que tu es chrétien, telle situation périlleuse vient à s'atténuer. Maintenant, tu ne passes plus par des tempêtes, tu ne passes plus par des moments difficiles. C'est assurément totalement erroné. Pourquoi? Parce que tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons confinés à cette terre, nous serons confinés au mode de vie de tout être humain. Et dans la vie, il y a des bons et il y a des mauvais jours. Voilà pourquoi même dans un mariage chrétien, on demande aux futurs mariés ou aux fiancés plutôt qui se marient de réciter ou de répéter certains vœux. Et parmi ces vœux, c'est qu'on prend la conjointe ou le conjoint pour les bons et les mauvais jours. Il y a des bons et il y a des mauvais jours dans notre vie, même lorsque cette vie est sous le contrôle et sous la main de Jésus. Même lorsqu'on a confié notre existence à Christ, il y a des bons et des mauvais jours. Vous êtes tous passés par des jours merveilleux, mais vous êtes assurément tous aussi passés par des moments difficiles, voire des moments exténuants et particulièrement demandants. Il n'y a rien qui laisse justifier que si on passe par des moments difficiles, c'est parce qu'on est en désaccord avec Dieu, on n'est pas en règle avec Dieu. J'ai déjà vu plusieurs personnes s'aventurer dans des espèces d'analyses à la noix lorsque quelqu'un passait par un moment difficile. Je me rappelle d'un cas en particulier où un couple, une dame bien entendu, avait perdu un enfant à une ou deux reprises déjà, dans une histoire assez difficile. Et quelqu'un s'était levé, avait écrit, les textos écrivaient, existaient déjà, ou les courriels existaient déjà, et avait écrit au mari en disant, et c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, en lui disant, ben regarde, si il s'est passé telle chose dans ta vie, c'est qu'assurément tu n'es pas en règle avec Dieu. Le mari avait été offusqué par les propos parce que ça entraînait quelque chose de difficile déjà sur son épouse et avait répondu, voilà ce que tu es en train de faire, ça frise l'insulte. Tu ne connais pas nos vies, tu ne sais pas comment on est en règle avec Dieu, donc tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que nous passions par telle situation et telle circonstance. Et nous devons être prudents aussi lorsqu'on s'aventure dans de tels faux pas. La Bible nous dit, l'amour ne présume point du mal. Lorsqu'on décrit les caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens au chapitre 13, une des caractéristiques importantes, c'est que l'amour ne présume pas du mal. Lorsque je suis en train d'arriver avec des pseudo-conclusions qui disent que, voilà, parce que tel frère est tombé malade, parce que tel frère a perdu un emploi, parce que tel couple chrétien ont perdu un enfant, parce que telle sœur a fait une fausse couche, parce que tel frère a eu un accident de la route, et puis prétendre que c'est parce qu'on n'est pas en règle avec Dieu, ça s'appelle présumer du mal. Et la Bible nous dit que l'amour, l'amour chrétien, l'amour de Dieu, l'amour qui émane du Seigneur devrait être exempt de cette présomption du mal. Alors faisons attention avec nos pseudo-conclusions de prophètes lorsqu'on veut expliquer les moments difficiles que quelqu'un peut passer. Lorsque quelqu'un passe par des moments difficiles, ce qu'il a besoin, ce n'est pas assurément de tes explications théologiques fausses, mais il a besoin de ton soutien, de tes prières, de ton affection et de ton amour. Alors, veillons à ne pas tomber là-dedans. Paul va dire, la tempête arrive, j'ai besoin d'un manteau. Et lorsqu'on va regarder l'ensemble du texte qu'on va étudier cette semaine, on va se rendre compte qu'en fait, bien s'équiper, c'est surtout s'équiper non seulement pour être productif dans le travail, mais aussi s'équiper pour faire face à la tempête. Quelle est l'attitude que je dois avoir par rapport à la tempête? Quelle est l'attitude que je dois avoir, les actions que je dois poser en vue de la tempête? Et ici, Paul disait à Timothée, voilà, amène le manteau, j'en ai besoin. Pourquoi la tempête s'en vient? Alors, premier enseignement pour nous, on doit se préparer à la tempête. La Bible nous dit, le Nouveau Testament nous dit, de nous armer de la pensée de souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire venir la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire venir le malheur. Ça veut juste dire qu'on doit se préparer à cette éventualité-là ou à ces moments qui, avec certitude, vont arriver, qui sont moins agréables que d'autres. Il y a des gens qui ne veulent pas se préparer à la tempête parce qu'ils se disent, si je parle de la tempête, en fin de compte, elle va arriver. Certains vont dire, si je parle de la maladie, alors la maladie va arriver. Si je parle de la mort va arriver. Si je parle d'un accident, alors l'accident va se passer. On va dire les choses très clairement. Ça, ce n'est pas de la révélation biblique. Ça, ce n'est pas de la prophétie. Ça, ce n'est pas une parole de connaissance. Ça, ce n'est pas une parole de sagesse. Ça, ça s'appelle de la présomption. Ça s'appelle aussi, et là j'oublie le terme, quelqu'un va me l'écrire tout à l'heure, quand vous... on cherchera le terme plus tard. C'est présumer de quelque chose. C'est être fataliste, c'est être superstitieux. Voilà le terme que je cherchais. Ça s'appelle de la superstition. Croire que parce que je parle de quelque chose, cette chose va nécessairement me tomber dessus. Je suis un chrétien, vous êtes des chrétiens, nous sommes un peuple de foi. Notre foi ne nous épargne pas des moments difficiles, notre foi nous permet de passer à travers les moments difficiles. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas, nous ne mettons pas notre confiance en n'importe qui et en n'importe quoi, nous mettons notre confiance en Christ. Vous avez à l'écoute ce matin des gens qui sont malades. Vous avez à l'écoute ce matin des gens qui ont été malades. Vous avez des gens à l'écoute ce matin qui sont passés par des moments difficiles. Vous avez assurément des gens à l'écoute ce matin qui passeront par des moments difficiles. Il nous faut s'y préparer. Il nous faut nous préparer à l'adversité. Et ça, c'est le grand malheur et le grand danger qui guette plusieurs croyants qui, ne voulant pas se préparer, ne voulant pas préparer leur équipement, ne voulant pas préparer leur traversée et leur cheminement, arrivent toujours face à une tempête comme celui qui se fait prendre de court. Lorsqu'on regarde les expéditions qui se font dans des circonstances ou des contextes compliqués, ceux qui vont traverser, on va dire, l'Arctique, ceux qui vont faire de l'alpinisme, qui vont gravir le mont Everest, ceux qui vont faire une traversée du Sahara, voire même ceux qui font des chemins un peu comme Compostelle, donc des randonnées pédestres qui sont demandantes, qui sont longues. Qu'est-ce qu'ils font avant de débuter leur randonnée ou leur expédition? Ils se préparent. Ils se préparent face à toute éventualité. Ils ont des vêtements pour quand il fait chaud. Ils ont des vêtements pour quand il fait froid. Ils ont des vêtements contre la pluie. Ils ont des vêtements contre les moustiques. Ils ont des vêtements contre la neige. Ils ont des vêtements contre l'eau. Ils ont des vêtements qui permettent de respirer à la peau, de respirer adéquatement, même dans les périodes de grande chaleur ou dans les périodes de grand froid. On ne va pas à la guerre sans se préparer. On ne va pas au combat sans se préparer. On ne chemine pas ou on ne devrait pas cheminer dans notre vie sans nous préparer à toute éventualité. Que se passe-t-il si un ennemi passe devant toi? La Bible te dit, aime tes ennemis. Et ça, ce n'est pas la dernière minute qu'il faut nous préparer à aimer nos ennemis. C'est une décision qu'on doit prendre avant que nos ennemis se présentent devant nous. La pluie, on peut la voir venir. On ne se prépare pas à la pluie quand la pluie est déjà sur nos têtes. On se prépare à la pluie avant que les gouttes ne tombent, pour que nous puissions rester secs, pour que nous puissions rester bien au chaud. On ne se prépare pas à une soirée froide à minuit. Non, on se prépare à une soirée froide durant la journée en allant collecter, ramasser du bois, des brindilles pour faire un feu. Actuellement, je suis en train de penser ce que je dois faire avec mon système de chauffage. On est en plein cœur de l'été. Mais je sais que l'hiver va arriver. Alors, mon grand questionnement, est-ce que je reste encore une année supplémentaire avec un chauffage au mazout, au gasoil, ou est-ce que je passe à un chauffage qui est alimenté à l'électricité? Mais si je passe à un chauffage qui reste au mazout, ou si je reste avec un chauffage au mazout, ben, il va falloir que j'achète du mazout. Il va falloir que j'achète du combustible. Alors, je ne peux pas acheter le combustible en plein cœur de la tempête, en plein cœur du froid. J'en aurai pas. Le mazout va s'être vidé de mon réservoir et je ne serai plus capable d'allumer. Je n'aurai aucun combustible. Donc, le combustible, on l'utilise avant, on s'en procure avant la tempête. Dans notre vie chrétienne, on doit faire la même chose. On doit se préparer à la tempête. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Les livres et les parchemins, on va les garder pour demain. On va juste s'arrêter sur cette notion de se préparer pour la tempête. Tu sais qu'à un moment donné, dans un couple, il va y avoir des difficultés. Même si vous vous aimez profondément, même si vous êtes dans la volonté de Dieu, dans l'union qui est la vôtre, même si assurément tu as marié la femme que Dieu avait pour toi, et assurément tu as marié le mari que Dieu a pour toi. Malgré tout, tu vas passer par des moments difficiles. Voilà pourquoi le jour du mariage, on demande, en tout cas moi, je demande au couple de répéter ses vœux avec moi. Même si le couple me dit, voilà, on a composé nos vœux, c'est ce qu'on voudrait prononcer, je leur dis, pas de problème, vous allez prononcer vos propres vœux, vous allez faire vos propres lectures, mais vous allez malgré tout répéter les vœux que je veux que vous répétiez. Pourquoi? Parce que dans ces vœux, on dit, voilà, je te prends pour les bons et pour les mauvais jours, pour les jours d'abondance et les jours de disette, pour la santé comme dans la maladie, dans les moments agréables comme dans les moments difficiles. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu de ne pas se fermer les yeux. La tempête peut venir. La tempête va venir et Dieu nous donne tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour bien se préparer. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur ça, sur le fait que nous devons veiller à nous préparer pour les tempêtes qui vont survenir. Vous savez pourquoi il est important? On parlait tout à l'heure, lorsque je me suis branché avant qu'on débute l'enseignement, on parlait notamment de la tornade qui s'est passée dans les Laurentides, à Wentworth, à travers les dernières journées. Quand la tempête fonce sur nous, il y a une espèce de tourbillon. Et là, il est trop tard. C'est pas à ce moment-là qu'il nous faut placarder les fenêtres. C'est pas à ce moment-là qu'il nous faut fortifier la demeure. C'est trop tard. La demeure va subir les affres de la tempête et nous devrons en réparer les conséquences. Mais celui qui a bien préparé la tempête, à ce moment-là, il a moins de réparations à faire. C'est un passage ou c'est une idée tout à fait biblique qui nous est mentionnée notamment avec la parabole du sage et du fou constructeur. On nous parle qu'un homme sage a bâti sa maison en creusant et en creusant et en creusant jusqu'à atteindre le roc sur lequel il a posé le fondement de sa maison et ce fondement sur lequel il a bâti la maison. Par contre, on nous dit que le fou a bâti sa maison sur le sable, à même le sable, sans creuser de fondement. Assurément, les deux maisons, lorsqu'on les regarde de loin, sont bâties de façon identique, à partir du niveau du sol et en montant. Ces maisons-là nous ont l'air toutes deux solides. Mais une a un fondement fortifié, l'autre a un fondement faible. Et la Bible nous dit que dans un cas comme dans l'autre, la tempête arrive. Et bien entendu, la maison bâtie sur le sable et s'écroule parce que pas bien fondée. Lorsque la tempête arrive, si ton fondement n'est pas solide, tu vas t'écraser. Voilà pourquoi on prépare la tempête avant que la tempête n'arrive. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement qui nous dit effectivement d'agir avec sagesse et avec prudence. Ce n'est pas le jour de la tempête qu'il nous faut nous préparer. La préparation se passe avant cela. Parce que sinon, lorsque la tornade tombe sur nous, on tombe dans ce tourbillon et on est emporté par ce tourbillon. À moins que nous n'ayons creusé jusqu'à atteindre le roc sur lequel notre vie devrait être fondée et sur lequel nous devrions avoir posé le fondement de notre existence. Paul disait à Timothée d'amener son manteau parce que la tempête allait venir. Il ne savait pas quand, il ne savait pas dans quelles circonstances, dans quelle portée, mais il savait reconnaître les saisons et les époques. Il savait que la tempête arriverait. Seigneur, nous voulons être comme un homme sage et pas comme le fou. Nous voulons être comme l'homme sage qui bâtit adéquatement sa demeure pour qu'elle reste, même lorsqu'elle sera battue par le vent, même lorsque la pluie s'abattra sur elle, même lorsque les inondations viendront, pour qu'elle puisse rester solide. Nous ne voulons pas bâtir notre existence simplement sur l'apparence, sans le fondement solide. Parce que lorsque la tempête va venir, lorsque les vents vont souffler, lorsque la pluie va tomber, notre maison, dans un tel cas, s'effondrerait. Alors je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, et je prie pour moi-même, que nous ayons la prudence et la sagesse. Aujourd'hui où les choses sont peut-être plus calmes, aujourd'hui où on est peut-être dans une période agréable de notre existence, de savoir reconnaître qu'il y a des jours mauvais qui peuvent arriver. Et en vue de ces jours mauvais, alors que je suis dans une bonne journée, je me mets à travailler en vue de la tempête. Seigneur, nous ne cédons pas à la superstition. Nos vies ne sont pas fondées sur les superstitions. Nous comprenons que ce n'est pas parce qu'on se prépare à la tempête que nous appelons la tempête. On comprend que ce n'est pas parce que nous nous préparons à des moments difficiles que nous appelons nécessairement les difficultés. Non, nous appelons la sagesse qui nous vient de Christ, la sagesse qui nous vient de la parole de Dieu, afin de rester, de demeurer solide, bien fondé, bien droit, même lorsque la tempête arrivera. Merci de nous donner, Seigneur, ces outils. Merci de nous donner ces avertissements. Merci de nous donner ces conseils qui nous permettent de passer à travers la tempête sans trop de dégâts. Tout cela, on le doit à toi. Tout cela, on le doit à ton enseignement. Tout cela, on le doit à cette précaution que tu nous demandes d'avoir. Alors, parle encore davantage à ma sœur. Parle encore davantage à mon frère. Arrose ces quelques paroles qu'on a partagées ce matin par ton onction et que tu puisses nous éclairer. Et une fois éclairé, Seigneur, qu'on puisse effectivement, nous aussi, nous procurer le manteau pour se préparer à la tempête. Nous avons prié dans le précieux, dans le glorieux, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va se retrouver demain. Demain, on va parler de la différence entre les livres et les parchemins que Paul a demandé à Timothée de lui amener depuis la maison de Carpus. Encore là, deux outils ou deux items importants dans notre vie. D'ici là, vous avez rendez-vous ce soir avec le pasteur André Bernard pour l'enseignement sur l'épître aux Éphésiens. Et quant à nous, on se retrouve demain matin à 8h30, toujours, même un peu avant pour les petites salutations qu'on prend le matin. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous dans la grâce, dans la paix, dans la protection et surtout dans la sagesse qui nous vient de Dieu. Préparez bien vos demeures, préparez bien vos vies en vue de la tempête, parce que la tempête viendra un jour ou l'autre. Et si on n'est pas prêt, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est notre responsabilité. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.